les jardinières.
Nous sommes le 20 novembre déjà, c'est samedi et c'est l'heure de parler jardinage. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Tom le jardinier est avec nous ce matin, bonjour Tom.
Bonjour.
Tom le jardinier, vous êtes l'auteur du livre Un potager au naturel, paru chez Albin Michel. Vous alimentez votre site Tom le jardinier de conseils en jardinage, mais aussi de merveilleuses recettes de saison. Et vous partagez votre savoir via les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous ce matin.
Et à tout le monde, soyez les bienvenus chez Les Jardinières, votre programme qui vous accompagne jusqu'à 8h.
7h, 8h, Les Jardinières.
Le mois de novembre, c'est souvent le mois du brouillard à basse altitude et du soleil en haute altitude. En tout cas, c'est le programme de la journée. Tom, est-ce que cette différence se remarque au potager ?
Alors, elle se remarque un petit peu parce que qui dit soleil en altitude dit souvent nuit découverte et donc un petit peu plus froid quand même, un petit peu plus des températures qui descendent un petit peu plus. Donc, on va bien protéger nos plantes. Puis pour celles qui sont un petit peu en altitude, il faut aussi un petit peu les protéger éventuellement d'un excès d'humidité parce qu'ils n'ont peut-être pas la neige, mais il pleut peut-être. Et puis, il n'y a rien de pire qu'une plante qui passe l'hiver avec les pieds dans l'eau.
Sinon, Tom, on peut faire quoi ce week-end au jardin? Parce que dans certains coins de la région, on a pu remarquer, entre autres ce matin, qu'il y a quelques gelées.
Alors, on met une grosse doudoune, on met des gants et un bonnet, et puis on va gentiment se mettre à jardiner. On peut toujours protéger nos plantes si on n'aurait pas fini de protéger nos plantes du froid. On plante les derniers bulbes de tulipes, de crocus, de muscaris, de tout ce qu'on veut planter. Et puis, on peut commencer gentiment à mettre en place quelques étoiles de Noël, les Eleborus niger, qui font des fleurs pour l'hiver. On peut aussi réfléchir un petit peu à son jardin potager pour l'année prochaine. Regarder, feuilleter les catalogues des semenciers qui arrivent déjà dans nos boîtes aux lettres. Puis on se dépêche de les commander parce que les graines, c'est pas comme le dernier iPhone où c'est qu'on peut produire à la chaîne. Mais une fois que les plantes, elles ont donné les graines, ben, il y en a plus pour l'année, enfin, il y en a plus à faire en cours de l'hiver. Donc, les premiers servis sont les mieux servis. Donc, les premiers arrivés sont les mieux servis. Donc, on se rue chez notre marchand de graines pour avoir des belles graines pour le printemps prochain.
De l'organisation donc. Merci beaucoup Tom, vous êtes avec nous durant une heure pour répondre également aux questions de nos auditeurs qu'on attend avec impatience, toujours par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également nous joindre par SMS, il vous suffit de taper jardin, un espace, votre question et nous envoyer ce message au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission questions aux jardinières et là pour être le plus précis possible, vous pouvez même y joindre une photo pour aider notre professionnel.
Dans quelques minutes, en compagnie de Tom le jardinier, nous parlerons du fameux dicton « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Nous verrons avec notre professionnel ce que ça veut dire. Pour rappel, la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre.
7h, 8h, les jardinières.
Parmi les nombreux adages et dictons populaires concernant le jardinage, ceux de la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre, sont célèbres et largement employés pour parler de la grande saison des plantations d'automne. Alors Tom, cette citation nous dit « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Alors est-ce qu'il faut vraiment planter les bois le 25 novembre ? Sinon, c'est cuit.
Alors, c'est pour dire que c'est environ cette période-là. Parce qu'on s'imagine bien que si le 25 novembre, il neige, qu'il y ait du brouillard ou qu'il fasse moins de 150 à l'extérieur, c'est peut-être pas ce jour-là qu'on va planter. Par contre, ce que ça dit, c'est que les végétaux, donc les arbres, tout ce qu'on peut planter à cette période-là, sont entièrement rentrés en dormance, dans cette période où ils ont perdu leurs feuilles, en cette période où ben voilà, ils sont prêts à être plantés, à être déplacés, prêts à être bouturés, parce qu'on pourra parler peut-être après de bouturage aussi, parce qu'on arrive bouturés, groseillés et compagnie.
Mais c'est parce qu'ils sont en dormance qu'il faut les planter maintenant, parce qu'on remarque quand même que le sol est froid, il n'y a pas ou peu du tout de soleil, les températures sont fraîches, et les plantations, elles survivent vraiment à ces conditions ?
Eh ben, justement, oui, parce qu'elles ont emmagasiné leur réserve. Et puis surtout, ben, quand on a un arbre fruitier, alors maintenant, ils sont de plus en plus vendus en pot, donc ça pose moins de problèmes. Mais quand on a un arbre fruitier ou un arbre ou une haie à planter, eh ben, il n'y a plus de ses feuilles. Et puis, une bonne partie de l'énergie de la plante, elle est utilisée pour absorber l'eau, tout ça. Donc là, pendant l'hiver, les racines, elles peuvent un petit peu faire des nouvelles racines, des micro-racines, celles qui vont absorber l'humidité. Le sol, bah, il ne va jamais manquer d'eau et puis les feuilles ne vont pas évaporer trop d'eau. Donc c'est vraiment cette bonne période-là qui fait que ça peut bien reprendre. On évitera quand même, comme je disais, les gros gels, la grosse neige, etc. Mais sinon, on a une bonne condition pour replanter nos arbres.
Le choix est vaste hein, pour les plantations. Tom, vous pouvez nous en citer quelques-unes, les plus connues par exemple?
Pomme, poire, coing, pruneaux, cerises. Après, on peut aller aussi dans les petits fruits, les groseilliers. Moi, j'éviterais les ronces fruitières, les framboises et les fraises en cette période. Mais on peut y aller, si on veut, si le groseillier à macro, par exemple. Après, il y a tout ce qui est les haies. Hein, si on veut remplacer notre traditionnelle moche haie de thuya ou de laurel, on peut y aller avec une haie un petit peu plus sauvage. On peut aussi mettre, par exemple, le forsythia, celui qui fait ses magnifiques fleurs jaunes au début du printemps. Le lilas, tout ça, toutes ces plantes-là, si on a une bonne période pour les planter, c'est bien maintenant, une fois que les feuilles sont tombées.
Alors, Tom, si Mylène est plutôt dans le traditionnel, moi je suis plutôt dans l'originalité. Si j'ai envie de me lancer un nouveau défi, quel type d'arbre, d'arbuste fruitier auriez-vous à me conseiller?
Alors, dans l'originalité, je ne sais pas, on peut aller dans des variétés un petit peu plus anciennes aussi, ou alors remplacer justement quelques variétés un petit peu anciennes qui pourraient être très sujettes aux maladies. Par exemple, on est de plus en plus à ne pas vouloir utiliser des produits de traitement sur nos arbres fruitiers. Il y a des variétés de fruitiers, par exemple, qui sont résistantes à la tablure. Alors, c'est des variétés qui viennent généralement un petit peu des régions plus nordiques, hein, la Scandinavie, tout ça. Et ces variétés-là sont résistantes à la tavelure. La tavelure, c'est une maladie qui peut être traitée jusqu'à 30 fois par année dans les cultures intensives où c'est qu'on va récolter ces pommes. Donc, si on veut éviter ce genre de choses-là, aller à la pépinière et demander des variétés résistantes à la tavelure.
Et justement, on y va à la pépinière. Dans les grandes lignes, quand on choisit son futur arbre ou arbuste dans une pépinière ou dans une jardinerie, à quoi il faut penser avant de partir avec? Comment on...
Prendre un véhicule.
Par exemple, je sais pas, par exemple, quand on prend l'ananas, on le sent. L'arbre, on fait quoi?
Alors, déjà, on va bien se renseigner sur la forme qu'on veut. Alors, on peut avoir du haut de tige, où c'est que le tronc fait jusqu'à 1,80 m, on peut avoir du basse tige, 1,50 m, et puis après, on peut avoir du basse tige qui peut être un peu plus bas. On a des variétés qui peuvent aller jusqu'à 50 cm. Donc ça, c'est de savoir si on veut prendre l'échelle, l'escabeau, ou juste grimper, ou juste être sur la pointe des pieds pour récolter. Puis après, il y a aussi la forme. Si on veut du palmette, vous savez, ces arbres qui font des U, qu'on peut mettre contre les murs, c'est peut-être une bonne chose si on veut essayer, par exemple, un abricotier, un pêcher, contre un mur, une façade qui sera un petit peu plus au chaud. Après, on se renseigne bien aussi sur le porte-greffe. C'est un petit peu technique, mais demander des conseils sur son porte-greffe, c'est important. On regarde l'état racinaire. Si, quand le pépiniériste il a arraché l'arbre, il n'a pas arraché les racines aussi. Hein, regarde un petit peu l'état. Et puis, on regarde aussi un petit peu son aspect général au niveau des branches. Pas que les branches soient râpées ou qu'il y a 4-5 branches pour avoir un bel arbre fruitier.
Merci beaucoup Tom. Dans quelques minutes, nous nous arrêterons sur les petits fruitiers, histoire d'avoir des fruits dans notre jardin et au plus vite.
7h, 8h, les jardinières.
La Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre et le dicton dit « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Tom, on va parler des petits fruitiers, histoire que dès le printemps, on puisse profiter de se régaler avec ses propres plantations. Alors, quels sont les petits fruitiers à planter maintenant, en plein automne?
Alors, on peut avoir les groseilliers, les cassissiers, on peut avoir... Moi, je déconseille un petit peu les ronces quand même et les framboises. Ça, c'est des choses que je ferais plutôt tout au début du printemps, dès que le sol il a dégelé un petit peu ressuyé au mois de mars. Les fraises, là aussi, on va plutôt attendre août ou au mois de mai, parce que août, elles vont déjà s'installer pour être productives au début, ou faire les premières fleurs au printemps. Puis si on les plante au mois de mai, ça peut être souvent dans les jardineries les mêmes plants du mois d'août qui ont un petit peu passé l'hiver dans des pots, donc ça on évite. Mais là, elles vont bien s'enraciner puis faire des fleurs vers juin-juillet. Puis on a peut-être une dernière récolte un petit peu tardive. Et puis sinon, on peut tester la baie de goji. Pourquoi pas, hein, ce super aliment plein d'antioxydants. On peut tester aussi plein de petites choses quand on va découvrir dans sa pépinière pourquoi pas, je parlais de la ronce fruitière, mais il y a aussi le mûrier, qui est un arbre qui produit des mûres, où c'est qu'il y a des... qui se récoltent, qui ont à peu près le même aspect que les mûres traditionnelles, mais sous forme d'arbre.
Alors, on trouve toutes ces plantes en jardinerie, on les prend ensuite, on les met directement en pleine terre, Tom ?
Alors, si possible, on les met directement en pleine terre. Sinon, il faut peut-être les planter dans un endroit pas définitif. Parce que si on les reçoit à racines nues, le pire, ce serait qu'elles dessèchent. Hein, ça peut dessécher, même si on a des conditions un peu humides. Mais quitte à peut-être les planter pas définitivement dans le potager, puis les redéplacer, si par exemple il y a un gros gel qui arrive ou des choses comme ça, on va les mettre un petit moment dans une étape intermédiaire qu'on appelle une jauge.
Et est-ce que ces plantes qu'on achète, on peut les garder en pot, par exemple, pour une plantation sur le balcon ?
Alors oui, c'est tout à fait possible. Par contre, même si c'est des plantes rustiques, même si c'est des plantes qui passent facilement le froid, ben moi je conseille tout de même peut-être de mettre un petit paillage, des feuilles mortes, etc. pour un petit peu protéger les pots, parce qu'une plante en pot, le froid peut l'attaquer de tous les côtés. Alors que quand une plante elle est plantée en pleine terre, comme les vers de terre, ils vont se mettre un petit peu sous terre pour éviter d'avoir trop froid. Là, et puis il n'y a que les premiers centimètres qui peuvent geler. Alors que voilà, on va essayer un petit peu de les protéger.
Et une fois que notre arbuste est en terre, est-ce qu'il a besoin de soins particuliers? Est-ce qu'il faut contrôler l'arrosage, de l'engrais, peut-être des tuteurs, voire peut-être contrôler la taille?
Alors, juste avant, on va retailler un petit peu les racines de nos arbustes. Si elles ont été un petit peu déchiquetées au moment de l'arrachage, une belle plaie faite avec un sécateur, c'est bien mieux. Ensuite, l'engrais, on évite de mettre un engrais directement en contact avec les racines pendant qu'on plante. Donc, on va peut-être mettre un compost très très décomposé. On va pas mettre de fumier au pied des racines parce que c'est le meilleur moyen de brûler les racines puis que notre plante reprenne pas. Le tuteur, on peut en mettre un, mais moi je conseille pas de le mettre tout de suite. Je conseille de le mettre, enfin on peut le mettre dans le trou de plantation, mais on l'attache pas à la plante avec son tuteur tout de suite parce que la terre, on l'aura sortie, on l'a un petit peu aérée et puis ça peut un petit peu se tasser et puis on peut retrouver dans les rares cas, une plante qui flotte un petit peu à l'air avec son tuteur parce qu'il y a le tassage. Puis pour l'arrosage, on va bien bien arroser parce que même s'il pleut, même s'ils annoncent 15 jours de pluie, on arrose quand même avec notre gros arrosoir de 10, 15 litres, 20 litres s'il le faut, pour tasser. Parce que ce premier arrosage sert à mettre vraiment la terre en contact avec les racines.
Les jardinières.
Suite des jardinières. Ce matin, c'est Tom le jardinier qui répond à vos questions. Pour les passionnés de jardinage, Tom est à suivre via les différents réseaux sociaux. Mais il est aussi l'auteur du livre Un potager au naturel, paru chez Albin Michel. Ça fait un très joli cadeau à glisser sous le sapin, je dis ça comme ça. Et il y a aussi son site internet tomlejardinier.com, une vraie mine d'or de conseils en jardinage, mais aussi en cuisine.
Et puis si vous n'avez pas envie d'aller sur internet ou d'attendre d'avoir son livre, eh ben, vous avez encore une petite demi-heure pour nous faire parvenir vos questions. Vous avez toujours trois possibilités pour le faire et la plus sympa, c'est de nous appeler par téléphone en composant le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous parlerez directement avec Tom, conseil directement en boîte, emballé, pacté très rapidement. Et puis vous pouvez également envoyer un SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous envoyez ce message au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité d'y joindre une photo.
Tom, en première partie d'émission, nous avons parlé de la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. On a surtout parlé des petits fruitiers et on aimerait savoir, il faut attendre le printemps pour manger ces petits fruits. Alors, c'est lesquels les premiers fruits qu'on va pouvoir déguster et quand ?
Quand ? Ah, bonne question. Ça dépendra aussi un petit peu du printemps qu'on a. Mais si on achète des groseilliers qui ont déjà quelques années, donc ça dépendra un petit peu aussi du prix, hein, on peut déjà avoir des récoltes l'été, hein, juillet, avec les groseilles, etc. Si on est un petit peu pingre, on va dire ça comme ça, puis qu'on veut économiser, ben, ça prendra peut-être une ou deux années de plus. Puis après, ben, si on plante des fraisiers, on peut en avoir déjà cet été, des fraises, on peut avoir des framboises, quelques-unes, hein, faut bien se dire quelques-unes sur les plants qu'on planterait ce printemps. Là, il faut 2 ans pour avoir des vraies belles récoltes, pour que les framboisiers s'installent. Après, ça va pousser comme de la mauvaise herbe. On devra peut-être plus les éclaircir qu'autre chose. Et puis, ben, pommes, poires, coings et tout ça, toutes les arbres de tiges, basses tiges et mi-tiges que l'on planterait, ben là, un peu de patience, c'est dans 5 ans. Parce qu'il faudrait même enlever les fleurs.
C'est plus que de la patience après 5 ans. Hein.
De l'acharnement. Il faudrait presque enlever les fleurs et les fruits pour laisser les racines bien proliférer dans le sol, bien s'enraciner, bien s'installer, et puis enlever les fruits pour que notre arbre fasse plus de racines que de fruits pour qu'il s'installe bien ses premières années, c'est crucial.
Mais la patience est toujours récompensée. Merci Tom. On va se tourner vers Raphaël qui est avec Nathalie au téléphone.
Exactement, une auditrice qui a une question pour Tom et qui a composé le 0900 70 20 20. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Votre question pour Tom.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir, parce que j'ai un thuya que j'avais planté seul parce qu'il restait d'une haie qu'on avait plantée. Et puis, ces jours, ça fait presque une année maintenant, à chaque fois, je dois couper des branches qui sont jaunes. Et puis, j'ai remarqué que dans le quartier où j'habite, il y a aussi une haie comme ça, qui a du jaune. Et puis, bon, il n'a pas enlevé vraiment ses branches sèches. Alors, est-ce qu'il faut que je coupe et puis que... Parce que ça ne repousse pas là où je coupe.
Alors, bonjour. J'ai cru que c'était ma maman qui m'appelait. Elle s'appelle aussi Nathalie.
Ah non, je ne suis pas votre maman, non.
Alors, pour les tuyas, je vous conseille de... Ben, en fait, le problème, c'est qu'il y en a tellement qui sont plantés que s'il y a un tuya qui est malade dans le quartier, il va contaminer tout le quartier. Donc, si votre voisin ne fait pas grand-chose, c'est compliqué.
Bon, il a taillé, justement, au bon moment, mais j'ai vu qu'il n'avait pas enlevé, disons, parce qu'il en a, certains qui sont presque à la moitié, donc ça fait un trou dans sa haie. J'imagine qu'il n'a pas voulu faire ce trou.
C'est ça.
Vous voyez, pour la continuité de sa haie. Mais c'est vrai que j'ai peur qu'après, ça contamine la mienne, c'est ça.
Eh bien, le truc, c'est qu'il y en a tellement de ces tuyas, j'allais en revenir, qu'aujourd'hui, il est pratiquement plus conseillé de planter ces tuyas. Donc, on peut planter un petit peu d'autres choses et puis qui seront même mieux.
C'est comme ça quand je l'ai planté. C'est vrai que maintenant, voilà.
Il y a d'autres choses qui seraient peut-être un petit peu mieux aussi pour la biodiversité, pour avoir peut-être, pourquoi pas, on l'a parlé la semaine dernière, un hérisson qui viendrait loger sous votre haie. Donc là, les tuyas, je vais pas vous dire, c'est un peu peine perdue, mais quand même.
C'est... Oui, bah, de toute façon,
faut changer de voisin.
Une haie, ça dure 30 ans, ça dure combien, vous savez pas.
Ça, alors les haies, si c'est bien entretenu, c'est à vie pratiquement.
Ah oui, parce que pour renouveler, pour mettre de l'engrais, justement, ou bien faut...
Alors, on va leur donner à manger, on va... si vraiment, là, il n'y a plus grand-chose dans les produits qui sont autorisés pour soigner toutes ces plantes qui sont malades, mais on peut... on les renouvelle, on les taille pour que les branches, elles se régénèrent, pour qu'il y ait toujours un petit peu de lumière qui arrive même jusqu'au cœur. Parce que souvent, ces haies sont tellement denses que l'humidité, elle reste assez souvent dedans. Et elles sont taillées régulièrement, ce qui fait qu'aussi, on peut avoir des maladies fongiques. Donc, le tuya, c'est vraiment plus forcément à voir dans nos jardins, surtout si on veut des jardins biologiques.
Oui, bien sûr. Mais parce que j'avais un buis, justement, que j'ai dû couper, mais ça n'a rien à voir avec cette maladie du buis, ou bien ?
Pas du tout, non. Généralement, ce n'est pas les mêmes. C'est une autre maladie qui attaque les tuyas.
Merci beaucoup, donc, Nathalie, en tout cas. Pardon, encore
merci beaucoup.
Merci à vous. Une toute belle journée, Nathalie. Et puis, courage avec votre tuya et vos voisins.
Voilà, merci.
Une belle journée, au revoir.
La suite revoir. Des jardinières dans quelques instants après une pause musicale. Puis on rappelle, hein, vous pouvez toujours nous téléphoner, nous écrire. Tom sera ravi de répondre à vos questions.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes donc là tous les samedis matins entre 7h et 8h, accompagnés d'un professionnel qui répond à vos questions. Des questions que vous pouvez nous poser, toujours trois possibilités, Raphaël.
0901 70 20 20, vous prenez votre téléphone, vous composez ce numéro et vous êtes en direct avec nous et vous posez votre question à Tom, le jardinier qui est notre invité ce matin. Si vous êtes plus timide, vous pouvez nous envoyer un SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émission questions aux jardinières et là vous pouvez même y joindre une photo histoire d'être le plus précis possible.
Tom, on a une question qui parle de serre. J'ai une grande serre et j'aimerais planter des pieds de vigne dedans. Est-ce possible? Si oui, avez-vous quelques conseils pour que ça fonctionne?
Alors, grande serre, on ne sait pas tellement la surface et moi je conseillerais d'en mettre déjà qu'un seul parce qu'un pied de vigne, ça peut pousser, vraiment bien pousser. C'est vraiment une bonne idée parce que si on remonte un petit peu dans le temps, dans les vignes, les pieds de vigne étaient mis dans les serres pour avoir du raisin, mais aussi pour l'ombrer. Comme ça, les plantes qui étaient dessous la serre, en été, eh ben, elles ne crament pas. Et ça faisait de l'ombre naturellement. Et une fois l'automne venu, les feuilles de la vigne tombent et on a de nouveau plein de soleil pour éventuellement les premières cultures au printemps, mais aussi avoir, pourquoi pas, des épinards, de la mâche, etc. en hiver.
Est-ce qu'un pied de vigne, c'est difficile à s'en occuper?
Alors, c'est difficile, oui et non. La vigne, si on a les bonnes conditions, elle peut ne pas avoir trop de maladies. Et puis, on n'a pas forcément besoin de la traiter. Par contre, ça demande aussi une petite taille, ça demande d'être un petit peu tutoré, guidé, pour pas que ça fait des vraies grandes branches, limite des lianes, qui peuvent être assez envahissantes.
Merci beaucoup Tom. Autre question, et je pense qu'il va intéresser beaucoup de nos auditrices et auditeurs. Nous avons un lierre qui court contre notre maison. On aimerait s'en débarrasser définitivement. Comment procéder?
Alors, il faut savoir que le lierre, il ne va pas nuire à la maison. Hein, le lierre, il va s'insérer, il va glisser sur les pierres, etc. Ça ne va pas forcément nuire à la maison. Là-dedans, on peut avoir aussi plein d'insectes. Le lierre va aussi faire plein de fleurs au tout début du printemps. Et là, ça attire des nombreux pollinisateurs. Ça donne de la nourriture au sortir de l'hiver. Donc, première chose, on est sûr qu'on veut vraiment enlever ce lierre.
Est-ce que vous êtes sûr?
Après, le définitivement... c'est vraiment coriace, hein, un lierre. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, on peut y aller arracher. Et puis, après, il faut presque retourner un petit peu le terrain pour enlever les racines, les rebords, les repousses, etc. Et puis, le définitivement, c'est il faut y aller en plusieurs fois. Chaque fois que ça repousse, ne pas lui laisser sa chance, en fait. C'est comme ça qu'on peut s'en débarrasser définitivement. Ou alors, on peut faire un purin d'ortie. Là, c'est plus trop la saison de l'ortie, mais au début du printemps, et qu'on va arroser pur, parce que ça fera un excès, et puis généralement, c'est l'excès de purin d'ortie ou genre de préparation-là fait mourir les plantes. Mais encore une fois, le lierre, c'est une plante indigène qui attire pas mal d'insectes pollinisateurs qui sont intéressants.
Est-ce que le lierre, quand on l'enlève, si on le met au compost, il faut faire attention parce qu'il peut repartir du compost ou...
Alors, on le laisse sécher quelques jours sur une place en pavé ou sur des dalles, etc. Ou simplement l'endroit goudronné, il va sécher et puis voilà.
Merci beaucoup, Tom. Peut-être encore une petite dernière question avant de repartir en musique. J'aimerais mieux connaître la terre de mon jardin. Est-ce qu'on peut la faire analyser? Est-ce utile? Et quelle information aurais-je en plus?
Alors, c'est utile, mais il y a des choses qu'on peut faire à la maison sans avoir besoin d'une analyse qui coûte environ 120 francs. Hein. C'est quand même un petit... qu'on pourrait peut-être mettre plutôt dans un arbre fruitier. Hein. On pourrait en revenir avec... on peut faire ça, des choses très simples. On va prendre un bocal, on va mettre une bonne grosse poignée de terre dedans, allez deux, et puis on va mettre de l'eau dedans, de l'eau simple, eau du robinet. On secoue, et puis après on va laisser...
Avec les bruitages en plus, surtout maintenant, on décolle plus. Hein.
et puis après on va laisser 24-48 heures se décomposer, que la terre qui était mélangée avec l'eau va se remettre dedans. Au fond, on va voir le gravier, le sable, tous les matériaux lourds. Après, on va voir l'argile, etc. Puis là, on va un petit peu analyser. Si on a beaucoup plus de sable que d'argile, on a plutôt une terre sableuse. Si on a plus d'argile, donc la deuxième couche, que de limon, la troisième couche, eh ben, on a plutôt une terre argileuse. Puis si on a plus de limon, ben, on a une terre limoneuse. De ça, on va éventuellement mettre plus de compost, plus de sable, etc. dans les apports qu'on va faire au jardin. Puis après, un deuxième truc qui est important dans son jardin à faire, c'est le pH, qui peut être important pour savoir si on plante plutôt des azalées, des rhododendrons, des plantes qui aiment les sols acides, ou plutôt des plantes qui aiment des sols calcaires ou basiques. Et puis là, on va le faire en prenant dans une pharmacie un petit peu de l'eau déminéralisée de la terre de notre jardin. On va remélanger tout ça et puis on va prendre ces petites languettes qu'on va mettre dans l'eau, puis on va avoir une indication sur le pH.
7h, 8h, les jardinières.
En première partie d'émission, nous avons parlé de la Sainte-Catherine le 25 novembre, où selon le dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Et Tom nous a bien expliqué qu'on pouvait planter maintenant différents arbustes. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver toute l'émission en podcast sur notre site. Et avant de vous laisser filer, Tom, à part choisir ses futurs arbustes et creuser des trous pour les planter, on fait quoi au potager ce week-end ?
Alors au potager, là, ça commence à être un petit peu compliqué. On va mettre un petit peu un lit de feuilles mortes sur nos poireaux d'hiver qui resteraient encore au jardin. Comme ça, même s'ils gèlent un petit peu, ils seront facilement récoltables. Après, si on aime les tulipes, moi je suis un grand fan de tulipes, on peut encore en planter au jardin. Après, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Installer quelques vivaces. C'est aussi, on a parlé des arbustes fruitiers, mais on peut aussi planter des rosiers. Hein, là, c'est aussi une bonne période pour la plantation des rosiers. Après, on peut aussi prendre son carnet, refaire les plantes, son jardin, pour faire une bonne rotation des cultures. On sait qu'on ne met pas les tomates avec les tomates où ont été plantées les tomates au moins pendant 4-5 ans. Donc, tout ce genre de petites choses-là, on fait vraiment attention à faire une belle rotation des cultures. Comme ça, au printemps, on sait où c'est qu'on plante les choses. Puis, on a encore la mémoire fraîche à l'automne. Il n'y a pas eu le réveillon, les petits cotillons, les bulles du champagne. Et puis, on peut vraiment être sûr de ce qu'on a fait. S'il faut augmenter le nombre de salades, s'il faut diminuer, on a planté trop de courgettes, on en a des bocaux et des bocaux au curry à la cave parce qu'on en a trop planté. Bah, peut-être que l'année prochaine, on dit, bah, au lieu de mettre 12 pieds de courgettes pour une famille de deux, on va peut-être en mettre que 3. Donc merci. Voilà, tous ces petits ajustements peuvent se faire et se réfléchir maintenant.
Merci beaucoup Tom. On rappelle que votre livre Un potager au naturel est disponible dans toutes les bonnes librairies. Les références sont également sur votre site tomlejardinier.com et on peut vous suivre sur tous les réseaux sociaux. Belle journée à vous et merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
À la prochaine.
Merci Tom. Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain. Dès 7h, nous serons en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy. Et on peut déjà vous dire qu'on va parler de haies. Voilà. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.